Émilien Verdon.
Bonjour à toutes et à tous. Pas d'accord commercial et des droits de douane plus élevés que prévu. Les États-Unis taxeront les produits suisses à hauteur de 39% dès le 7 août. La date butoir pour trouver des compromis avait été fixée à aujourd'hui par Donald Trump. Cette nuit, le verdict est donc tombé pour des dizaines de pays. La Suisse fait partie des plus mal lotis avec des conséquences importantes pour notre économie si ça se confirme, comme l'explique Charles-Henri Monchaud, responsable des investissements de la banque CIS.
C'est la douche froide. Il y avait plusieurs scénarios. Le scénario du pire, c'était de rester sur les 31% qui nous avaient été imposés, on s'en souvient, le 2 avril. Et là, 39%, alors si ces 39% devaient être imposés, s'il n'y avait pas de marge de négociation, évidemment, on a plusieurs types d'industries qui vont être pénalisées à l'exportation. C'est le cas, par exemple, à l'industrie pharmaceutique, des outils de précision, certains domaines de l'agroalimentaire. Donc évidemment, ça va avoir des impacts sur notre capacité à exporter. On est déjà plutôt pénalisé par la force du franc, et en plus de ça, en ce qui concerne un de nos partenaires commerciaux privilégiés qui sont les États-Unis, la facture est relativement salée.
Charles-Henri Monchaud s'exprimait tout à l'heure dans la matinale. Et le dénouement n'est donc pas vraiment celui envisagé au vu des dernières interviews plutôt optimistes de la présidente de la Confédération, Karine Keller-Sutter. Ce matin, le Conseil fédéral prend acte avec grand regret de la volonté unilatérale des États-Unis de taxer les exportations suisses à 39% à partir du 7 août. Romain Carupt, le gouvernement est fâché ce matin.
On sent de l'agacement, oui, dans sa déclaration écrite. Le Conseil fédéral indique avoir fait preuve d'une position d'emblée très constructive. Il regrette donc que la Suisse soit soumise à des droits de douane considérables en dépit des progrès réalisés sur le plan diplomatique lors de discussions intenses. Les négociateurs américains et suisses s'étaient mis d'accord sur une déclaration d'intention commune, mais Donald Trump n'a pas validé ce texte dont on ne connaît aucun détail, confidentialité oblige. Ce matin, le Conseil fédéral précise toutefois que les 39% divergent très largement du projet soumis à Trump. Le gouvernement suisse veut continuer de négocier avec Washington, mais il prévient la solution devra être compatible avec l'ordre juridique suisse, engagements internationaux compris. Une déclaration sibylline qu'expliquera peut-être Karine Keller-Sutter tout à l'heure au Grütli à l'occasion du 1er août.
Guerre en Ukraine, l'ultimatum américain à la Russie réitéré hier au Conseil de l'ONU. Donald Trump, par l'intermédiaire d'un haut diplomate, a fait clairement comprendre qu'il voulait un accord mettant fin à la guerre, et ce d'ici le 8 août. 24 heures après plusieurs frappes qui ont touché la capitale Kiev, faisant au moins 28 morts selon un dernier bilan. Une attaque qualifiée d'écœurante par le président des États-Unis. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, arrivé hier en Israël, doit se rendre aujourd'hui dans la bande de Gaza. Alors que l'indignation internationale s'intensifie face à la famine et au massacre de civils palestiniens, l'administration Trump juge le Hamas responsable de la crise humanitaire et de la poursuite des combats. Malika Nedir.
Poignée de main chaleureuse entre Steve Witkoff et Benjamin Netanyahou dans le bureau du Premier ministre israélien. Le négociateur en chef de Donald Trump est accueilli en ami à Jérusalem pour faire le point sur les négociations en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, au point mort. Américains et Israéliens imputent cet échec au mouvement islamiste, également responsable, selon Donald Trump, de la famine qui règne à Gaza. Son émissaire Steve Witkoff doit se rendre dans l'enclave palestinienne pour mettre en place un plan visant à livrer davantage de nourriture, annonce la Maison-Blanche, qui n'a jamais accusé Israël d'utiliser la famine comme arme de guerre. Un soutien au gouvernement Netanyahou qui tranche avec la vague de condamnations internationales envers les méthodes de guerre israéliennes. Après la France, le Royaume-Uni et le Canada, le Portugal annonce à son tour son intention de reconnaître l'État palestinien en septembre prochain.
Le retour d'un match européen, en terre vaudoise. C'est bien passé pour le FC Lausanne Sport en football, le LS, qui a largement pris le dessus sur Vardar hier soir à la Tuilière, s'imposant 5-0 au deuxième tour qualificatif pour la Conference League. Les hommes de Peter Zeiler poursuivent donc leur route et affronteront les Kazakhs d'Astana dès jeudi prochain. Et on termine ce journal par lever les yeux au ciel. Comme chaque année à cette période, les douces nuits d'été sont propices à l'observation des étoiles filantes. Il s'agit des perséides qui apparaissent fidèlement dans le ciel nocturne entre la mi-juillet et fin août. Et elles devraient connaître leur apogée ces prochaines nuits, Fouad Boukhari.
Durant sa révolution autour du Soleil, la Terre traverse en cette période de l'année plusieurs champs de poussière de roches dans l'espace, parmi lesquels les perséides. Il s'agit en fait de minuscules débris laissés par les passages de la comète Swift-Tuttle, qui repassera en 2126. Ces particules de la taille d'un grain de sable ou d'un petit pois pour les plus gros s'embrasent quand ils entrent dans notre atmosphère, créant ainsi ces fulgurantes étoiles filantes devant nos yeux émerveillés et dont l'apogée est prévue pour la nuit du 12 au 13 août. Pour admirer ce spectacle, il faut un ciel bien noir et donc s'éloigner des villes illuminées, en campagne ou à la montagne, et regarder en direction du nord-est, là où se situe la constellation de Persée, d'où semble provenir cette pluie d'étoiles filantes. De nombreuses manifestations sont prévues dans la plupart des cantons, alors qu'en France voisine se tient aussi ces trois prochaines nuits la 35e édition de la Nuit des Étoiles.
Temps le plus souvent ensoleillé, il sera le plus généreux du Léman au Valais, en moins en montagne avec des averses dès la mi-journée qui devraient prendre un caractère orageux. En cours de soirée, ça devrait se calmer avant d'à nouveau devenir humide en deuxième partie de nuit. Au niveau des températures, on attend pour cet après-midi entre 24 et 27 degrés en plaine, 22 et 24 dans le Jura, 27 dans la plaine du Rhône. Pour le week-end, alternance entre averses, nuages, éclaircies pour demain avant le retour du sec qui devrait s'imposer pour quelques jours.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
De l'élégance lumineuse de Mendelssohn à la puissance expressive de Brahms, ce samedi, au Festival de Verbier, l'orchestre de chambre de Verbier, dirigé par Theodor Körentis, interprète la 4e symphonie, l'italienne, de Mendelssohn, et le concerto pour violon de Brahms avec le violoniste belge Marc Bouchkov. Rejoignez-nous ce samedi dès 19h30 dans l'été des festivals sur RTS Espace 2 et RTS Play.
La Petite Compagnie en nouvelle diffusion, Juliette Granier.
Bonjour à vous, voici un branle de la cornemuse.
De guerre et de rançon, car de la peste, de guerre. Eh bien, je pense que vous êtes en train maintenant d'avoir écouté cette belle branle de la cornemuse. Ensuite, il y avait Tandis que je m'arrête de Châtillon de la Tour, branle double de Prétorius et branle de village de Philidor. Nous sommes ici dans l'album « Et la fleur vole », airs à danser et airs de cour, autour de 1600 avec les musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch et nous avions la soprano Annie Dufresne. Voici maintenant un très bel air qui s'appelle « Le doux silence de nos bois ». Et ça tombe bien, c'est, je trouve, avec cette floraison qu'il y a encore un peu maintenant, les pommiers en fleurs notamment et les petites pâquerettes au-dessus. Dessous, pardon. Le doux silence de nos bois, c'est chanté par un duo à la ville comme à la scène, à la ville comme à la campagne, devrais-je dire. Léa Descendré, blonde liane fine et lancée comme une orchidée. Et Thomas Dunford au luth, qui est son amoureux, les voici tous les deux en train de chanter le doux silence de nos bois.
Thank you.
Bon. Alors, et oui, parce qu'on a un petit puck dans l'émission qui s'appelle Sidney Pierrot, qui me fait beaucoup rigoler. Et pourtant, ben oui, mais ça tombe très bien parce que nous écoutions justement la danse de Puck, vous savez, ce petit personnage de Midnight, Some Midnight, comment c'est déjà, dans Shakespeare, Allez Granier avec Oberon. Bon, je vais le retrouver. C'est pas la Reine de la Nuit. Ah, bon. Prélude, donc, de Claude Debussy, la danse de Puck, le songe d'une nuit d'été, voilà. Et on écoutait ici la version avec l'Orchestre Royal National d'Écosse. Et puis, voici un petit branle du Poitou, qui est joué par Smith, Hopkinson Smith, au luth. Joli branle du Poitou, joué au luth par Hopkinson Smith. J'ai reçu un petit message très agréable de Ehab qui rebondit sur mon allusion au pommier en fleurs qui embrasse les floraisons. C'est joli, Ehab, vous avez écrit les fleurissons. Et on dit floraison, donc F-L-O-R-I-S-O-N-S, mais vous, votre esprit a entendu les fleurissons avec... ou alors c'est le téléphone hein, qui a fait de la poésie involontaire. Mais c'est joli d'entendre les fleurissons comme un verbe commun au pronom commun de la deuxième personne, la première personne du pluriel, c'est joli. Les fleurissons de glycine dans mon jardin. C'est très joli. Sur un ciel de soir presque dégagé il y a 2 jours, est-ce que la glycine a été contaminée par les couleurs du pommier? Eh oui, puisque la glycine a elle-même des tons d'un rose pâle un peu passé, plus rose que mauve. Et le pommier lui-même a cette espèce de pourpre d'étain au cœur de la fleur, puisqu'elle n'est pas entièrement blanche. Voilà, très très joli sur un fond bleu,
assez délavé lui aussi, presque comme à l'aquarelle. Donc merci beaucoup pour la petite photo. Et je voulais vous dire aussi que si je... en deuxième heure, je vais essayer de répondre à une demande qui a été proposée par... c'est pas vraiment une demande. Enfin, si, c'est une demande. Par notre auditeur Takuo. Takuo a réagi hier au passage d'antenne qu'on a fait avec Sydney, entre 8h58 et 9h, où l'on parlait de Bartok. Sydney avait fait écouter un petit bout de la troisième, de la sonate de Bartok, dans le troisième mouvement. Et en fait, Takuo, vous avez entendu que j'en parlais avec enthousiasme, et vous nous proposez que j'explique mieux pourquoi cet enthousiasme. Et ce que je vais faire, c'est peut-être comparer aussi des versions auditives. Je sais que parfois, lorsqu'on fait ça, pas comme l'ancienne émission Disque en Lice où on passait des œuvres en entier, mais simplement des petits bouts pour que votre oreille puisse entendre vraiment de manière presque superposée les différences d'une interprétation à l'autre. Et alors vous proposez cela, et si j'ai le temps de bâtir une petite présentation d'ici la deuxième heure, eh bien on va se régaler, on va faire ça. Écoutez de près en quoi les interprètes, à partir d'un même texte en fait, hein, font une exégèse complètement différente. Voilà, pour l'instant, on va écouter un quatuor à cordes de Brahms. Thank you.
Le quatuor Prajak dans ce troisième quatuor à cordes de Brahms. Je me suis rendu compte que j'avais oublié tout à l'heure de désannoncer le très beau duo voix et luth. C'était avec Léa Desandré et Thomas Dunford. Et nous avions la composition d'un homme né en 1660 qui est Honoré d'Ambruis. Donc on écoutait le doux silence de nos bois, c'est un air de cour. Et vous le retrouverez dans un album qui s'appelle Idylle, qui est un très 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 bel album. Et maintenant c'est un certain Joseph de la Barre qui est né en 1633, donc français baroque. On va écouter le digne objet pour qui mon cœur soupire. C'est donc aussi un air de cour, une sarabande jouée à la flûte par François Lazarevitch. Thank you. Dans la famille de ce compositeur, on était musicien de père en fils, de père en fille. Son père était le claveciniste et l'organiste de Louis XIII. Sa sœur était tellement célèbre que la reine Christine de Suède lui a demandé de venir à sa cour. Et son départ a été différé, du reste, pendant 5 ans, parce qu'il y avait eu la fronde à ce moment-là qui sévissait en France. Donc c'était dangereux de voyager jusqu'en Suède. Et le père, père Labarre, parce que ce sont la famille de Labarre, avait interdit que sa fille, même si elle était célèbre chanteuse et compositrice et claveciniste et danseuse aussi, ne se déplace comme ça pour aller rejoindre la reine Christine de Suède. Et donc elle a été un petit peu en froid au début avec la reine, qui avait quand même attendu 5 ans, mais finalement, les qualités humaines de la sœur de ce compositeur ont fait en sorte que la reine a montré une grande amitié pour elle. Oui, sa sœur s'appelait Anne Chabanceau de Labarre, et lui, donc, c'est Joseph Chabanceau de Labarre. On écoutait ici le digne objet pour qui mon cœur soupire, et nous écoutions François Lazarevitch et à la guitare Éric Belloc. Il m'est arrivé une petite mésaventure qui s'est révélée très utile. Parce que, en fait, c'est une manière aussi de partager avec vous quelque chose sur nos fonctionnements auditifs et nos fonctionnements inconscients d'appréciation des choses. En fait, j'avais oublié de rentrer le numéro qui identifie l'artiste et le répertoire, etc. Je savais que c'était les nouvelles lettres de Schumann, mais je ne savais pas qui les jouait. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, c'est quand même vachement bien. Et en fait, il s'agit d'Éric Lesage. Et Éric Lesage, il est vrai que je vous le propose souvent dans Schumann, mais par ailleurs, à un niveau personnel, ça a été un de mes enseignants en musique de chambre. Et donc, comme je suis pianiste, il est pianiste aussi, voilà, et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Mais, dans le rapport personnel, Éric Lesage est une personne, quand je l'ai eu en professeur, qui était vraiment adorable, douce, compréhensive, très bon pédagogue. Et donc, j'aurais eu tendance à penser, c'est là où je vous dis la subjectivité, en fait, de l'écoute, j'aurais eu tendance à penser que, oui, j'adore ces Schumann, mais que c'est peut-être un peu, parfois, ça manquerait un peu de nervosité, de ce côté un peu sombre, obscur que pouvait avoir Schumann ou la musique romantique, et que quelqu'un qui est tellement gentil ne peut pas avoir par défaut, non? Et bien, en fait, je me suis bien trompée. Et donc, c'est intéressant de, parfois, d'écouter sans savoir qui joue, et on se dit, waouh, mais qui ça peut être? Qui comble à ce point des désirs que je ne savais même pas avoir, finalement? Eh bien, c'était Éric Lesage dans ses deux novelettes de Schumann.
Avi Avital qui jouait une jolie dans sonate pour flûte et basse continue avec Ira Givol au violoncelle et au théorb Ophira Zakai. J'aurais voulu vous passer quelque chose sur un événement que j'aurais voulu souhaiter fêter avec vous. Voilà, je l'ai retrouvé parce que vous savez parfois vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit aujourd'hui de la célébration de la libération en Italie. Et le 25 avril est donc une date importante puisque le comité de libération nationale de l'Italie du Nord en avril 1945 avait proclamé l'insurrection générale contre l'occupation allemande et la République sociale italienne. Donc aujourd'hui, une partie de l'Italie est en fête. Et je voulais le marquer d'un petit Vivaldi qui nous fait du bien et qui signe la saison. C'était donc Ragnhild Hemsing dans Le printemps de Vivaldi pour le jour de la libération en Italie. Comme nous avons beaucoup d'auditeurs italiens, il fallait quand même marquer un peu le coup. 10h sur RTS Espace 2, la petite compagnie, et ce sont les infos.